pour RFI Soir.
Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Un pays qui se débaptise pour satisfaire son voisin, en l'occurrence la Grèce. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Macédoine ou République de Macédoine du Nord, les électeurs macédoniens doivent donc se prononcer par référendum sur ce changement de nom dimanche prochain. À la clé de cet accord conclu avec Athènes, un pas supplémentaire vers l'Union européenne et l'OTAN. Sauf que cette question divise la société et réveille certains sentiments identitaires. Reportage à Skopje, Laurent Gélin.
Depuis quelques semaines, le gouvernement social-démocrate du Premier ministre Zoran Zaev est à l'attaque sur tous les fronts pour inciter la population à se rendre aux urnes dimanche. Diplomates américains et européens défilent les uns après les autres dans la capitale Skopje pour soutenir l'accord conclu avec la Grèce. Quant au pouvoir, il organise un peu partout des rassemblements pour vanter les mérites d'une éventuelle intégration de la Macédoine aux structures euro-atlantiques. Nicolas, la trentaine, est venu avec quelques amis assister à un meeting au centre de Skopje. Il est favorable à cet accord.
Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de raccourci pour l'Union européenne. Ce n'est pas un ultimatum, c'est la voie que nous devons suivre. Les alternatives ne sont pas brillantes. Je veux croire que nous allons progresser, améliorer notre économie, notre système judiciaire et notre état de droit. Les bénéfices que nous apportera l'Union européenne ne seront pas visibles avant longtemps, peut-être une décennie, mais il y aura des bénéfices.
Les Macédoniens doivent répondre à la question « Êtes-vous favorable à l'adhésion à l'UE et à l'OTAN en acceptant l'accord conclu entre la République de Macédoine et la République de Grèce ?» Celui-ci précise que si la Macédoine change de nom et devient la Macédoine du Nord, Athènes lèvera son veto à l'intégration du pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Une question épineuse qui touche à l'identité macédonienne et qui provoque de vives disputes entre amis ou au sein des familles, au point même de faire oublier les traditionnelles tensions avec la minorité albanaise. Artan Sadiku est membre du mouvement citoyen Solidarnost.
Ces dernières années, les tensions ethniques ont diminué, mais une autre fracture s'est étendue à l'intérieur de la communauté macédonienne. Les antagonismes s'aggravent, les partis politiques restent dans leur coin et ils ne s'attaquent que par déclaration interposée. Il n'y a plus de place pour la communication et le dialogue politique.
L'attitude de l'opposition nationaliste est très emblématique du climat. Chassé du pouvoir après les législatives de décembre 2016 au terme d'une décennie de règne, elle n'a pas appelé ses partisans à se déplacer aux urnes afin de protester contre l'intitulé même de la question posée. Pourtant, une participation de 50% des électeurs est nécessaire pour valider le scrutin. Christian Miskoski est le dirigeant du VMRO de Penomeue.
Ils ont lié le référendum sur le nom de la Macédoine à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Et maintenant, la question à laquelle nous devons répondre, c'est « Soutenez-vous l'intégration à l'Union européenne et l'OTAN en approuvant l'accord ?» C'est une manipulation, car on soulève plusieurs problématiques en même temps. C'est comme si on demandait aux citoyens de dire oui à un référendum pour gagner 2000 euros par mois et obtenir l'électricité gratuite.
L'immense majorité de la population de Macédoine a toujours été pour une intégration à l'Union européenne et à l'OTAN. Mais pour certains, les ambiguïtés de la question du référendum pourraient retourner l'opinion publique, comme l'explique Arsim Zekoli, ancien ambassadeur de la Macédoine à l'OSCE.
Je crains qu'un rejet du compromis avec la Grèce n'entraîne en retour un rejet des citoyens de l'intégration euro-atlantique, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Cela va créer plus de divisions, pas seulement maintenant, mais surtout après le référendum, quel qu'en soit le résultat.
Pourtant, dans un pays gangréné par la corruption, où l'état de droit est soumis aux intérêts des politiciens au pouvoir, le processus d'intégration à l'Union européenne apparaît comme nécessaire pour enclencher des réformes. C'est du moins la position d'Urania Pirovska, la chef du bureau du comité Helsinki en Macédoine.
Le référendum est une manière d'avancer, d'aller vers l'intégration européenne. Celle-ci permettra à la Macédoine de sortir du cercle vicieux qui consiste depuis 27 ans à ne pas faire de réformes. Les gens doivent sentir que la justice est la même pour tous et nous avons besoin d'une lutte radicale contre la corruption. Les négociations d'adhésion auront pour conséquence d'obliger la Macédoine à adopter certaines normes de l'UE pour devenir membre de la famille européenne.
L'échéance du 30 septembre pourrait marquer d'une pierre blanche l'histoire récente de la Macédoine. En acceptant le compromis avec la Grèce, le pays pourrait faire un premier pas vers l'Union européenne et l'OTAN. Mais nul ne sait si les fractures qui sont en train de s'ouvrir au sein de la communauté macédonienne pourront un jour se refermer, car les sujets identitaires sont toujours extrêmement sensibles dans les Balkans.
Et selon les derniers sondages, le oui devrait l'emporter, reste l'inconnu de la participation au scrutin. Réponse dimanche soir. Des sentiments identitaires qui se réveillent un peu partout en Europe et qui divisent, c'est le cas également en Pologne, en Hongrie, en Allemagne ou en Italie. Depuis quelques années, les élections dans les États membres de l'Union sont marquées par une nette montée des partis populistes. C'est ce qu'observe avec attention Jean-Yves Camus, le directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Cécile Debarge l'a rencontré.
Lutter contre le défi populiste, voilà l'une des ambitions de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, qui déclarait dans un entretien à Reuters le 25 septembre qu'il fallait pour cela avoir un budget de la zone euro et s'attaquer à la question des inégalités. Des mesures nécessaires, selon le commissaire européen, pour contrer l'argument de nombreux partis populistes comme la Lega italienne, qui promet de défendre les citoyens face à la finance et au grand capital.
Nous vivons dans une société beaucoup plus ouverte, où un certain nombre de phénomènes comme la mondialisation sous sa forme libérale donnent encore un peu d'essence au moteur du populisme.
Jean-Yves Camus est politologue spécialisé sur les partis d'extrême droite en Europe. Il rappelle que le terme de populiste en Italie est apparu pour la première fois dans les années d'après-guerre à la fin des années 40. Depuis, le terme a évolué avec les sociétés européennes.
Nous sommes dans une société multiculturelle, c'est-à-dire que la question de l'immigration et de l'identité devient beaucoup plus prégnante parce que ce qui faisait sens de manière quasi automatique jusqu'encore dans la France des années 60, 70 peut-être même, est remis en cause par le fait que notre population est devenue différente.
Immigration et identité, deux thèmes sur lesquels les partis d'extrême droite font régulièrement campagne et qui séduit un nombre d'électeurs croissant, explique Jean-Yves Camus.
On aurait un électorat d'extrême droite qui serait résiduel et qui, en raison d'une vague populiste, serait passé au-delà de la barre des 10-15%, mais serait amené à se dégonfler un peu comme un château de cartes. Cette idée, je crois, elle est morte.
Loin d'être un effet passager, le phénomène s'enracine dans de nombreux pays européens et les partis populistes ont accédé au pouvoir dans plusieurs pays. Hongrie, Pologne, Italie, Autriche, par exemple. Un scénario que la France a pour le moment évité lors de ses élections présidentielles, mais qui pourrait se manifester lors des prochaines échéances électorales.
La rapidité du changement et le fait que nos repères ne sont plus naturels, y compris d'ailleurs dans nos petites villes et dans nos campagnes, plus aussi naturels en tout cas qu'il y a 40 ou 50 ans, induit à la fois un sentiment de peur devant l'étrangeté, puis un sentiment aussi de perte de repères. C'est très frappant dans les enquêtes d'opinion de voir quelle est la proportion de Français qui estime que la France n'est plus telle que nous l'avons connue.
Un discours porté en France par le Rassemblement national est jugé convaincant par 21% des Français qui seraient prêts à voter pour le parti de Marine Le Pen contre 21,5% d'intention de vote pour La République En Marche, d'après un sondage Odoxa paru à la mi-septembre.
Les opposants au président turc se mobilisent en Europe et tout particulièrement en Allemagne, où Recep Tayyip Erdogan poursuit sa visite et tente de se réconcilier avec Angela Merkel. À Berlin, militants des droits de l'homme et kurdes ont manifesté. Des Kurdes et le parti HDP, particulièrement visés par Ankara. Le leader pro-kurde Demirtas a été condamné récemment à plus de 4 ans de prison. Du coup, le HDP, le Parti démocratique des peuples, appelle les élus européens à soutenir les maires kurdes emprisonnés. Et c'est bien ce qui s'est passé à Lyon, Daphné Castaldi.
Je vais chercher de pâte à
fixe. Ce jour-là, on s'active à la mairie de Villeurbanne. Cette ville socialiste, engagée, est la première commune de l'agglomération de Lyon à parrainer des élus kurdes, victimes de la répression en Turquie. Thierry Lamberto est le coprésident de l'association Amitié Kurde à l'initiative de ce projet.
Donc on affiche les 15 photos. Un élu a été libéré depuis qu'on a prévu ce parrainage. Les élus vont parrainer 15 maires kurdes emprisonnés donc, au Kurdistan de Turquie.
Les élus de Villeurbanne arrivent au compte-gouttes. 8 vont s'engager à parrainer leurs confrères kurdes. Un dossier contenant les photos des maires emprisonnés en Turquie leur sera remis à la fin. Ce parrainage les engage à la solidarité. Thierry Lamberto.
Ce qui est demandé aux parrains, c'est déjà d'écrire aux élus qui vont parrainer, communiquer ici avec la presse, communiquer avec le consulat de Turquie pour demander leur libération et bien sûr se rendre à leur procès lorsqu'ils ont lieu. Voilà, si c'est possible. Il y a un proverbe kurde qui dit que les Kurdes n'ont quand même mis que les montagnes. À nous de leur démontrer qu'ils en ont d'autres.
À ses côtés, Eyüp Doğru est le représentant du HDP en Europe. Il a fait le déplacement pour cette cérémonie, l'occasion de dénoncer la répression politique en Turquie contre son parti, pourtant sorti renforcé au Parlement lors des dernières élections.
Malheureusement, nous sommes le seul parti d'opposition, on peut dire, parce qu'en Turquie, nous sommes quand même troisième parti politique, malgré toutes ces arrestations, malgré toute cette politique de l'État qui nous a freiner de mener une campagne normale dans la région du Kurdistan et en Turquie. Et actuellement, tous ces maires et les élus se trouvent en prison. Nous avons quand même plus de 6000 personnes qui se trouvent en prison injustement. Et ils se trouvent en prison parce qu'ils n'ont pas totalement accepté la politique menée par le nouveau dictateur de la Turquie, M. Erdogan. Donc, et ce qu'on vient de faire ici, c'est justement de mobiliser la solidarité entre les élus français et les élus kurdes.
Une forme de résistance hors des frontières. En France, il y aurait plus de 200 000 Kurdes, selon l'Institut kurde de Paris, et quelques milliers à Lyon. Sur les murs de la salle des cérémonies, on aperçoit les visages des deux maires progressistes de Diyarbakır, la ville principale de la zone kurde au sud-est de la Turquie. Jean-Paul Brett est le maire de Villeurbanne.
Je parraine trois élus de Turquie, mais qui sont dans les régions kurdes. La commère d'Agri, le commère de Bitlis, M. Olan, et la commère de Diyarbakır. Je cite Diyarbakır parce que c'est la plus grande ville kurde de Turquie. C'est un engagement qui, évidemment, est un engagement symbolique parce que ces élus, pour beaucoup d'entre eux, sont en prison ou dans des situations, en tout cas, de privation des libertés. Il y a une espèce de négation des résultats des élections. Donc, c'est une façon de marquer l'empathie, de la solidarité.
Une surveillance policière spécifique a été prévue afin d'empêcher toute intrusion de militants turcs pro-Erdogan. Finalement, la cérémonie s'est déroulée sans encombre, en petit comité. Selon le représentant du parti pro-kurde, une trentaine de parrainages a eu lieu en France, plus d'une centaine ailleurs en Europe, comme en Allemagne ou en Italie.
Gandhi, la reine d'Angleterre, Albert Einstein, Jules Verne, quel est le point commun de toutes ces personnalités? Eh bien, leur portrait se retrouve placardé dans les rues du centre-ville d'Amiens, dans le nord de la France. Rencontre avec un jeune artiste très pop, Lise Verbeck.
À deux pas de la cathédrale, le visage de Frida Kahlo s'affiche, éclaboussé de mille couleurs. Dans la rue d'à côté, c'est la mine débonnaire d'Albert Einstein. Et devant la mairie, c'est le visage bienveillant de Simone Veil qui semble observer les passants. Des passants justement interpellés par ces affiches pop art.
C'est vrai qu'on les remarque assez facilement, elles sont voyantes, elles sont jolies. Ça permet peut-être aussi aux jeunes de se poser la question de qui est cette femme sur le mur et d'aller voir un petit peu son histoire.
Et si les personnages peints sont d'un coup d'œil identifiés, peu de passants se questionnent sur l'artiste en lui-même qui vit à quelques rues de là.
Bonjour.
Romain Doré ne cherche pas l'anonymat, son nom est inscrit en bas de ses œuvres. Ses affiches sont tolérées par l'Amérique car elles se décollent facilement. Romain peint chez lui, dans une toute petite pièce.
Et alors là, vous avez les feutres, donc là vous avez d'autres, des molotos, c'est des plus grands formats. Les bombes de peinture, j'utilise avec des pochoirs, des grilles perforées. J'ai beaucoup d'artistes qui m'influencent. Dans la couleur, ce serait Van Gogh, parce qu'il sait maîtriser la couleur comme personne. Et voilà, c'est un peintre que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup.
Et parmi les personnages célèbres qui lui ont donné le plus de fil à retordre, Jules Verne.
Parce qu'il fallait que je trouve une photo pour arriver à le repeindre. Et à l'époque du Jules Verne, les photos, c'était pas trop ça. Donc j'ai dû chercher des gravures pour arriver à retrouver les expressions que je voulais repeindre assez fidèlement possible.
À travers ses peintures, ce fan de comics passe aussi des messages et tente d'inciter les passants à lever le nez de leur téléphone dans la rue.
C'est un triptyque où on voit deux super-héros masculins s'embrasser, de super-héroïnes s'embrasser et un couple hétéro s'embrasser.
Grâce à ces affiches collées sur les murs d'Amiens, le jeune artiste de 29 ans a été repéré. Il expose en ce moment dans un centre culturel de la ville.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous privilégiez la légèreté pour terminer la semaine, Vincent, avec cette pop très simple venue de Suède.
Après une période faste à la fin des années 2000, on avait un peu l'impression que la scène pop suédoise était moins généreuse en nouveaux talents ces derniers temps. Et voilà qu'un jeune quatuor de Malmö vient aujourd'hui nous contredire, révélé l'an passé avec un premier album charmant, les mal nommés Haters enfoncent le clou cet automne avec Siesta, un disque à la simplicité revigorante, un de ces exercices de pop intemporel et sans prétention auxquels on finit pourtant par revenir souvent, soit 14 chansons qui ont essentiellement pour thème l'amour et sont portées par des guitares légères et la voix claire de Caroline Lendahl.
Le nouvel album de Hater des Suédois, bien mal nommé comme le disait justement Vincent Théval. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook.